Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h33, le débat des grandes voix du jeudi avec ce soir à mes côtés Claire Chartier. Bonsoir Claire, rédactrice en chef débat et idées à l'Express. Édouard Le Cerf, directeur général, adjoint du groupe BVA. Bonsoir Édouard.
Bonsoir.
Aurélie Herbemont, chef adjointe du service politique. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir.
Alors Léna, ça y est, c'est donc confirmé, c'est terminé, en tout cas dans sa forme actuelle. C'est une décision qu'Europe 1 vous révélait ce matin, tout un symbole, d'autant que le président de la République en est lui-même issu. Mais c'était l'une de ses promesses suite au mouvement des Gilets jaunes. Et ça fait réagir notamment Bruno Retailleau, le président du groupe LR, au Sénat.
C'est la politique du bouc commissaire. On supprime l'ENA pour ne pas avoir réformé l'État. Jamais l'État n'a été autant centralisé, bureaucratisé. Le problème, ce n'est pas l'ENA. Le problème, c'est le politique qui doit diriger son administration. On a besoin d'une élite.
Bon, c'est la fin de l'entre-soi. C'était une mesure nécessaire, forte. Claire Chartier ?
Alors, c'était certainement nécessaire dans le sens où si on avait simplement réaménager l'école comme on était parti pour le faire, parce que finalement, il y avait un projet vraiment de révolution qui avait été enterré, parce qu'il y avait un rapport Thériès qui ensuite avait été un peu mis dans les tiroirs, et la vraie question, c'est pourquoi elle avait été mise dans les tiroirs, d'ailleurs. Donc là, on est vraiment sur un registre plus révolutionnaire, puisqu'on change l'école. Et effectivement, c'est quand même l'ENA, c'était quand même... En fait, en finir avec l'ENA, c'est vraiment dire qu'on rompt avec une culture technocratique et avec la promotion d'une oligarchie de hauts fonctionnaires détachés des réalités
du pays. C'est un symbole, mais est-ce que ça va vraiment changer les choses dans les faits?
C'est là où je veux en venir. C'est que je pense que ça ne sera peut-être pas forcément suffisant parce que le mal est plus profond. Et le mal n'est pas simplement, je pense, la gestion de l'État. C'est que ça renvoie vraiment à une crise de la méritocratie au sens large. Et que c'est finalement... tenter d'apporter une solution, ça, prétendre apporter une solution à peu de frais à un problème qui est bien plus large, qui est effectivement celui d'une inégalité d'accès.
Il y a plusieurs choses, on va détailler tout ça, on a le temps d'en parler ce soir. Mais Bruno Retailleau, il dit quelque chose d'assez clair. Il dit le problème, ça n'est pas l'ENA, le problème, c'est le politique qui doit diriger son administration. En somme, c'est l'administration qu'il faut réformer, pas l'ENA. Aurélie.
Et puis le fait que ce sont les politiques quand même qui dirigent les administrations. On sait qu'Emmanuel Macron a été souvent agacé pendant la crise.
Mais vous savez ce qu'on dit, Aurélie Herbemont, le politique prend une décision, les hauts fonctionnaires, ça ne suit pas.
Oui, mais peut-être que les ordres ne sont pas assez bien donnés. Peut-être que parfois c'est facile de dire que ça ne déroule pas derrière, parce que Emmanuel Macron a lui-même fait l'ENA, Jean Castex a fait l'ENA, le précédent Premier ministre Édouard Philippe a fait l'ENA, 4 présidents de la République ont fait l'ENA. Et c'est vrai qu'Emmanuel Macron a montré quand même pas mal d'agacement pendant cette crise du Covid sur le fait que ça ne suivait pas derrière, notamment sur les débuts de la vaccination. Il avait d'ailleurs fait savoir qu'il était en colère et que ça ne se passait pas très bien. Mais les hauts fonctionnaires, quand même, il y en aura toujours besoin. Ils sont quand même très utiles.
C'est eux qui font tourner la boutique. Donc,
c'est eux qui font tourner la boutique.
Pour faire tourner la boutique.
Et c'est vrai que jusqu'ici, les plus hauts du classement à l'ENA, donc c'est ceux qui étaient dans la botte, par exemple, on le voit là au moment du Covid, n'allaient pas vers l'inspection des affaires sociales, par exemple, donc du côté du ministère de la Santé. Ils allaient plutôt inspection des finances, cour des comptes, conseil d'État.
Oui. Alors, même question Édouard Le Cerf. Jusqu'à présent, c'est vrai que l'ENA, c'était le prestige. Et puis, depuis quelques temps, l'ENA est devenue le symbole de cette haute administration, parfois déconnectée de la réalité aussi du quotidien des Français. Jusqu'à, je le précise parce que c'est amusant, cette attestation qui avait suscité la polémique pour organiser les déplacements avant d'être supprimée, qui avait été rebaptisée sur les réseaux sociaux dans une fausse pub très drôle, signée du bien nommé Jean Lénarque.
Que sais-je de Jean Lénarque qui donnait le mode d'emploi pour les attestations. Alors, il faut peut-être ramener les choses à la réalité. Il y a une réalité numérique, il y a une réalité politique, il y a une réalité administrative. La réalité numérique, c'est les énarques, c'est 6500 personnes. Pas tous actifs, pas tous dans l'administration, pas tous dans la fonction publique. Il y a 5,7 millions de fonctionnaires en France. On est à peu près à 0,1%. Donc, certes, ils sont importants, certes, ils ont un rôle.
Mais ceux qui tiennent les manettes et les commandes, ce sont les énarques.
Ils ne peuvent pas être seuls à pouvoir faire tourner. On le disait, c'est une machine avec des rouages, des gros rouages, des petits rouages. Et au départ, il y a quelqu'un qui fait tourner le moteur et qui doit être effectivement plutôt le politique. Mais il y a ce premier élément-là. Ensuite, il y a un élément politique, parce que c'est vrai que c'est un symbole, c'est une manière de présenter les choses en disant, on sait qu'il y a l'entre-soi, c'est vrai. Mais il y a aussi un des éléments critiques que les Français entendent, c'est la reproduction. La fameuse reproduction de Pierre Bourdieu, c'est-à-dire qu'on retrouve 7 énarques sur 10 sortent d'une famille qui était même, non pas avec des énarques, mais d'une famille, on va dire, bourgeoise, de la bourgeoisie. Donc il y a une forme de reproduction. C'est essayer de casser ça. C'est donc d'abord le système de recrutement.
On cite peut-être un chiffre qui est très parlant. 82 élèves de la promotion 2019-2020. Il n'y a qu'un seul fils d'ouvrier, par exemple.
Oui, voilà, c'est ce que l'on dit. Essayer de casser cet élément-là.
Léna, c'est ça. C'est vraiment, je pense que, effectivement, l'un des aspects majeurs du problème, c'est que c'est un symbole qui incarne. Léna, ça incarne vraiment la grande école, c'est-à-dire ce système de la voie royale qui est très spécifique à la France et qui, en fait, a été de plus en plus contesté à mesure que l'enseignement supérieur s'ouvrait, la course au diplôme s'accentuait avec le chômage. Et Léna, en fait, finalement, conditionne à sa façon. Ce système-là conditionne encore plus la valeur du diplôme. Enfin, ça devient quelque chose effectivement de prépondérant. Et la crispation et la frustration que ça engendre avec un enseignement supérieur qui est censé s'ouvrir et qui, en fait, reste absolument fermé à des élites qui profitent toujours du système. Et ça devient intolérable. Bien. Et Léna, en fait, représente ça.
On continue d'en parler juste après la pause, 18h39, avec nos débatteurs. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et dans le débat des grandes voix du jeudi, on continue à parler de Léna, de la suppression de Léna, annoncée donc par le président de la République. D'ailleurs, Emmanuel Macron n'a pas toujours été sur cette ligne, souvenez-vous, pendant la campagne présidentielle en 2017.
J'ai la tête d'un moule. Léna, c'est un moule pour qui veut le devenir ou qui l'avait déjà. Avant que ce soit Léna, c'était quoi ? C'était le recrutement par copinage. Moi, je préfère les concours de la République.
Voilà. Aurélie Herbemont, bon, on a le droit de changer d'avis. C'est visiblement la crise des Gilets jaunes qui lui a fait changer d'opinion au président de la République. Alors, est-ce que c'est une vraie conviction ou est-ce que c'est une mesure politique?
Effectivement, la première fois qu'il parle de supprimer l'ENA, c'est la conférence de presse du mois d'avril en sortie de crise des Gilets jaunes, donc en avril 2019. Et il le dit au détour d'une phrase, voilà, la réforme de la haute fonction publique, il faut que ça commence par supprimer l'ENA. Après, il y a eu un rapport donc, à Frédéric Thiriez qui avait été demandé. Ça s'était plus ou moins perdu dans les cartons, puisque l'an dernier, en février 2021, juste avant qu'on rentre dans la crise du Covid, Emmanuel Macron, dans un déplacement, avait plutôt plaidé pour l'option d'ouvrir davantage le recrutement pour accéder à l'ENA et sortir de système Sciences Po ENA, qui faisait que c'était toujours le fameux moule, les mêmes profils. Bon, Emmanuel Macron donc, s'était bien rendu compte qu'il y avait un sujet de crispation dans la société vis-à-vis de ces élites qui imposent à l'ensemble des citoyens leur bon vouloir. Donc, il a fait un bouger à ce niveau-là et donc il a rebougé, puisque d'abord c'était changer la voie de recrutement et là maintenant c'est carrément supprimer l'ENA, même si rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, comme dirait Lavoisier, ça va devenir un institut du service public.
Alors, Claire Chartier, rédactrice en chef débat et idée à l'Express, est-ce qu'il y a aussi un mode de pensée des énarques? On dit souvent qu'il y a une forme de sentiment de supériorité chez les énarques, on sait mieux que tout le monde, on sait mieux que vous, qui agace aussi. Est-ce que c'est le cas?
Il y a certainement une façon, effectivement, de présenter et d'enseigner les réalités du pays qui correspond à... Bon, dans toute école, il y a aussi une patte, et elle existe certainement dans le cadre des normes. Mais il faut quand même replacer les choses aussi dans notre contexte actuel.
Non, je voudrais aller jusqu'au bout, parce que c'est un élément important quand même.
Oui.
On vous explique que vous êtes l'élite du pays, que vous allez diriger les grandes administrations françaises. Oui. Donc, vous détenez le savoir, c'est vous qui avez les clés.
Mais vous
savez, que ça conditionne un mode de pensée?
Bien sûr, mais c'est ce que je disais tout à l'heure avec l'idée... De ce modèle français, c'est-à-dire que les grandes écoles, l'ENA a été beaucoup plus récente, mais l'idée de cette voie royale, elle naît à la Révolution. En fait, il s'agit de créer une élite républicaine pour remplacer l'élite de l'ancien régime des grands corps. Donc c'est exactement cet esprit-là. C'est-à-dire, on va former une oligarchie, mais vraiment qu'on aura triée. Et évidemment, cette idée s'est perpétuée. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle conditionne notre système éducatif d'une façon très large. Mais juste, un dernier point, c'est qu'on est quand même dans un contexte particulier. Donc le Covid, on ne parle que du Covid. Donc là, Emmanuel Macron peut trouver l'occasion un petit peu de changer de sujet. Et puis, ce fameux Covid a quand même effectivement donné lieu à des tombereaux de critiques contre la technocratie. Lui-même, Emmanuel Macron, a tapé du poing sur la table pour bien montrer qu'il voulait s'en démarquer. Donc, on est là, en fait, dans la même idée, c'est-à-dire il prouve qu'il est capable de s'émanciper de cette fameuse technocratie qu'on juge insupportable, a fortiori dans une crise sanitaire.
Édouard Lecerf, directeur général adjoint du groupe BVA.
Quitte à provoquer un peu, vous posez la question de la qualité des énarques. c'est une formation de très grande qualité. En général, les gens qui en sortent sont de très haut niveau. Oui. Il faut quand même le rappeler, ce n'est pas uniquement l'image.
Peut-être de trop haut niveau, justement. C'est un peu ça qu'on leur reproche.
Alors, bien sûr, il y a un esprit de corps, bien sûr. Il y a une forme de
coopération. Il manque un peu de bon sens et de bon sens paysan.
Parfois,
vous savez qu'on aime bien
parfois
ça en
un éloignement. Ben, vous voyez, Jean Castex, qui revendique ce bon sens ancré dans les territoires, a réussi à faire l'ENA et il l'a fait sans doute assez brillamment. Donc, encore une fois, première chose, c'est un corps... certes d'élite, et parfois c'est effectivement plus facile à décrier ce que l'on voit un peu plus. Et sans doute parce que leur lien très particulier avec la politique, c'est-à-dire beaucoup deviennent ou font de la politique, crée un problème un peu plus stigmatisé. Si on revient sur la question de comment les Français considèrent tout ça, des sondages récents ont montré que c'est à peu près 50-50. On n'est pas en train de se dire qu'on fait une réforme qui est absolument surpopulaire et qui va permettre d'avoir un coup de booster.
C'est le symbole.
C'est vrai,
c'est
un symbole important. C'est un symbole important parce que c'est vrai qu'on est aussi, sans doute déjà, après les Gilets jaunes et avant l'élection présidentielle.
Je reviens sur la question de l'entre-soi. L'ENA était aussi vivement critiquée pour la question du pantouflage, le fait pour un haut fonctionnaire d'aller travailler ensuite dans une entreprise privée et de passer ainsi, d'une certaine manière, du privé à la haute administration, du politique à la direction d'une entreprise. Vous voyez où je veux en venir, Aurélie Herbemont. Il y a ce sentiment aussi de la part des Français qui est une forme de connivence.
Qu'est-ce qui se passe en haut? On fait des allers-retours du public au privé, du privé au public, ministre, pantouflage, etc.
Oui
forcément.
Ce qui peut poser d'ailleurs des problèmes de conflit d'intérêts au bout du bout.
Il y a une commission quand même de déontologie qui met un veto pour dire non, ça, là, par exemple, ça ne va pas être possible. Mais ce que fait aussi Emmanuel Macron, c'est qu'il montre qu'il est encore capable de mettre un coup de pied dans la fourmilière, de réformer, d'essayer de se réinventer, et puis de faire autre chose que du Covid. Et là, c'est vrai qu'on n'attendait pas forcément une suppression de l'ENA aujourd'hui, maintenant. Donc il montre qu'il a encore une agilité et qu'il peut encore faire des choses et bousculer et se réinventer un peu.
Bien, 18h46, on marque une nouvelle pause. On se retrouve dans quelques secondes. On parlera de ces dîners clandestins avec des perquisitions partout. Chez un grand chef, au pavillon Vivienne. Est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop sur cette histoire de chasse aux sorcières? On en parlera avec nos débatteurs. À tout de suite.
Europe 1.